partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Dans cette deuxième émission, Axel Maugé, auteur d'un essai qui s'intitule « Les élites argentines et la France », édition de l'Harmattan, Paris 2004, évoque sa rencontre avec un couple d'intellectuels argentins ayant souffert de la censure et de la dictature, Horacio Salas et Graciela Isnardi.
Horacio Salas, plutôt pessimiste, n'hésite pas à me dire que Julio Cortázar lui apparaît comme le dernier symbole de la vive effusion qui eut lieu entre la France et l'Argentine. Dans mon fort intérieur, je ne partage pas son point de vue, même si je le respecte. D'ailleurs, quelque peu gêné d'avoir été aussi brutal, lui le sensible ajoute, comme pour essayer de se faire pardonner, que de nombreux artistes argentins apprécient encore Paris. D'emblée, il se met à citer les noms de peintres de renom, Antonio Segui, Julio Leparque ou Léa Lublin. En vérité, je me rends compte que ce qui déçoit mon interlocuteur, c'est que la France réagit si faiblement à l'offensive américaine appuyée par une technologie écrasante. Grâce à cette technologie, les ondes américaines envahissent le monde entier. Dans leur appartement câblé, les Salas peuvent recevoir 70 canaux, dont 20 directement des États-Unis contre 1 pour la France. 36 canaux sont argentins. Mais comme une bonne moitié des programmes présentés viennent d'Amérique et ne sont pas toujours traduits, on imagine au fil du temps l'impact aliénant de la civilisation américaine sur leur propre culture. Reste une petite place pour quelques canaux venus du Venezuela, de Colombie, d'Allemagne, d'Italie, du Chili, d'Espagne et du Brésil. Ce dernier pays, pourtant le plus important d'Amérique du Sud, offre lui 3 canaux. Nous vivons assurément à l'heure de la disproportion, de l'inégalité et de la domination sous la protection du merveilleux libéralisme. Critique envers l'Argentine, Horacio Salas l'est également, n'hésitant pas à fustiger les derniers gouvernements argentins qui ne se sont pas assez intéressés aux créateurs. Il faut avouer que dictature et création ne vont en général pas bien ensemble. Il s'insurge contre le fait qu'Ernesto Sabato, un écrivain accompli, un ami de la France, décoré de la Légion d'honneur, ait été longtemps boudé, voire écarté, des médias argentins. Heureusement pour cet admirateur des surréalistes que Victoria Ocampo a toujours soutenu dans le passé, celle qui faisait collection d'âmes a eu l'immense mérite d'encourager Ernesto Sabato à s'exprimer. En 1940, alors qu'il est âgé de 29 ans, elle lui propose de rédiger un article pour la revue Sur. Cet homme marqué à gauche apprécia très vite la tolérance, la franchise, la vraie générosité de celle qui était surnommée, on le sait, la panthère noire. Ainsi que le rappellent Ayerza de Castillo et Odile Felgin dans leur maître livre sur l'éblouissante dame des lettres argentines, je cite, « Pour l'auteur du tunnel, son amitié avec Victoria resta une valeur absolue dans ce monde cruel et relatif où l'on vit et où la grandeur, la générosité et le courage sont si rares. » La revue Sur a toujours défendu la cause de la démocratie contre la dictature, a pu renchérir Borges. Elle a pris le parti des républicains pendant la guerre civile espagnole et adopté la cause des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme le sociologue français Georges Friedman, auteur du magnifique essai intitulé « La puissance et la sagesse », Ernesto Sabato n'a jamais cessé de défendre l'art contre la science avec lucidité. Il refuse la robotisation croissante de l'homme. La junte militaire, une fois dissoute, il n'est pas étonnant qu'on ait confié la présidence de la Commission nationale sur la disparition des personnes à cet artiste généreux au-dessus de tout soupçon. À la suite de cette enquête, un livre est paru sous le titre de « Nunca más », « Jamais plus » en français, en 1984. Dans ce dossier, il est précisé que le nombre des disparus durant la période de la dictature pourrait atteindre le chiffre de 30 000 personnes, ce qui est considérable. Les militaires ne veulent pas donner la liste exhaustive des disparus parce qu'ils considèrent qu'il ne sert à rien de remuer le passé. Si l'armée admet avoir eu 1 000 morts dans ses rangs, en revanche, on ne connaît pas les pertes exactes subies par les insurgés. Bref, les années de dictature sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. En novembre 1995, des journaux ont révélé qu'Enrique Gorriarán Merlo, dit El Pelado, venait d'être arrêté au Mexique, d'où il a été extradé vers l'Argentine. C'était l'ancien chef de l'armée révolutionnaire du peuple. Cette arrestation, survenue quelques mois après la cascade de confessions de militaires et d'anciens tortionnaires, a aussitôt ravivé le débat sur le rôle des forces armées et sur celui de la guérilla durant les années noires. De nouveau, Horacio Salas s'attaque à la censure qui a été longtemps accablante en Argentine. Par exemple, dénonce-t-il, le poète surréaliste argentin Enrique Molina, âgé de 85 ans, jadis un ami personnel d'André Breton, n'est quasiment jamais invité ni à la radio ni à la télévision. Et soudain, un coup de théâtre se produit lorsque mon interlocuteur me souffle, je cite, « Vous savez, cette dictature n'a rien eu d'abstrait pour nous ». Il m'apprend que sur les 44 poètes recensés dans son livre « Generación Poética del 60 », donc « Génération poétique des années 60, 1975 », plus de 30 poètes ont pris le chemin de l'exil lors des années noires, 7 en Allemagne, 6 en France, 5 en Suisse, 4 au Brésil, 3 au Venezuela, 2 en Espagne, 1 au Mexique, d'autres en Italie, en Hollande, etc. À ces exilés, il faut ajouter 3 disparus, c'est-à-dire, c'est dire, l'hémorragie subie par les milieux créateurs de ce pays. J'ai sous les yeux une lettre d'un ancien ambassadeur de France en Argentine, Renaud Vignal, datée du 26 octobre 1995, révélant que selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OPRA, un total de 921 réfugiés politiques argentins ont été recueillis par la France. La progression des demandes a d'abord été rapide, atteignant un sommet de 214 statuts reconnus en 1978, avant de diminuer progressivement jusqu'en 1983. Durant les années de terreur, Horacio Salas me confie que plus de 70 journalistes ont disparu. Phénomène émouvant, le souvenir de ces êtres sacrifiés résiste à l'usure du temps. Un jour, ayant regardé au hasard la rubrique « Anniversaire du monde », c'était le 16 février 1996, j'y ai trouvé le nom, tout à fait par hasard, de Sidney Six Marquez dos Santos, journaliste disparu le 15 février 1976, torturé et assassiné par la dictature argentine, cela 20 ans après les événements, ainsi que l'exprime avec une vive sensibilité un personnage d'Alain René dans son chef-d'œuvre « Hiroshima, mon amour », je cite, « Pour oublier, il faut d'abord se souvenir ». Horacio Salas, qui n'est pas avare de confidences, ajoute que beaucoup d'écrivains ont été séquestrés, parmi eux Antonio Di Benedetto, cet homme pourtant considéré comme un conservateur, a été torturé. À sa sortie de prison, il s'est plaint d'avoir été moins bien traité qu'un chien. Il est mort quelques mois après sa libération. Ses amis ne s'expliquent toujours pas aujourd'hui les raisons de son arrestation. Un autre écrivain, Daniel Moyano, a lui aussi été jeté en prison pendant 6 mois. Ce rédacteur d'un journal de la province de Rioja, connu pour son libéralisme et son progressisme, était suspecté de couvrir des éléments subversifs au sein de son équipe. S'il n'a pas été lui-même torturé, il a raconté qu'il entendait souvent les cris de victimes anonymes. D'autres écrivains, eux, ont disparu sans laisser de traces, si je peux m'exprimer ainsi, puisque leurs écrits perpétuent heureusement leur mémoire. Il s'agit de Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Roberto Santoro, Miguel Ángel Busto, et il y en a beaucoup d'autres, murmure accablé Horacio Salas. Plus notre entrevue se prolonge, plus je sens un immense trouble s'emparer de mes interlocuteurs. Un deuxième coup de théâtre survient lorsque Graciela Isnardi, jusque-là très attentive aux propos de son mari, intervient pour révéler qu'un jour, au début de la dictature, ils ont reçu des menaces téléphoniques. Des messages anonymes précisaient que leur fils allait être tué. Aujourd'hui encore, le couple ne sait pas qui étaient les auteurs de ces menaces. Provenaient-elles des terroristes ou des militaires? Peu de temps avant d'être harcelé, Horacio Salas avait déclaré à la télévision que la violence ne menait nulle part. Il n'est pas impossible que des éléments subversifs, rendus furieux par ses propos, aient voulu les intimider, voire les punir. Le jour du coup d'État militaire, dirigé par le général Videla, nous ne pensions pas craindre personnellement quelque chose, me confie le couple. Croyez-le ou non, 15 jours après, mon mari figurait sur une liste de la sécurité d'État, ajoute Graciela Isnardi. Au départ, il avait été fiché pour une raison plutôt amusante, ubuesque, puis cette affaire s'est transformée en une aventure terrifiante, kafkaïenne. À l'époque, Horacio Salas dirigeait les publications YPF. Or, imaginez que l'année précédant le putsch, il avait fait imprimer une carte pétrolière indiquant les installations du pays. Cette carte avait été distribuée dans les écoles. Sa couleur rouge eut le malheur de déplaire aux militaires. Interrogé par ces derniers afin de connaître la raison du choix d'une telle couleur, Horacio Salas leur a répondu que l'histoire de la couleur rouge était universelle. Témoigne de cela le rouge de la religion, du Papa Noël, de la couleur des uniformes, etc. Mécontent de sa réponse, ils l'ont alors menacé avant de piller son bureau. 15 jours après, un colonel de leur connaissance a téléphoné à sa femme pour insister sur le fait que son mari ne devait revenir en aucun cas sur son lieu de travail. Il lui a vigoureusement conseillé de l'inciter à prendre le premier avion pour l'étranger. Tant d'années après les événements, le couple qui se trouve en face de moi m'assure qu'il n'avait strictement rien à se reprocher. Compte tenu du climat de terreur qui régnait le jour même, ils ont acheté un billet d'avion. Aussi, Horacio Salas a-t-il quitté l'Argentine pour l'Espagne en mai 1976. Sa femme l'a finalement rejoint en janvier 1977. S'ils ont connu l'exil pendant 7 ans, au moins aujourd'hui sont-ils en vie. Ils avaient un excellent ami en Espagne qui leur avait promis de les aider en cas de besoin. Il n'a hélas pour eux pas tenu sa parole. Graciela Isnardi, visiblement une femme de bonne famille, se souvient comme si c'était hier de son arrivée en Espagne lorsqu'elle a débarqué avec ses 3 enfants et 500 dollars en poche. Au bout de 9 mois de recherche, elle a fini par trouver un travail de secrétaire bilingue. Son mari, lui, s'est d'abord débrouillé en dénichant un petit boulot d'ouvrier. Il vissait des cartes. Ensuite, il a réussi à obtenir un poste à l'Institut ibéro-américain. Il a aussi été nègre. Lorsqu'il manquait d'argent, leurs nouveaux amis, souvent des exilés comme eux, leur en prêtaient. Revenu en Argentine en 1983, il leur a fallu recommencer à zéro. Ils reconnaissent que la réadaptation était dure et que leur orgueil en a souvent pris un coup. Voilà comment l'avènement de la dictature a été vécu par un couple sans histoire. Leçon terrible à méditer, montrant que les représentants d'un régime totalitaire peuvent en effet accuser n'importe qui de n'importe quoi, comme par exemple d'avoir fait imprimer une carte pétrolière en rouge. Pour le visiteur que je suis, habitant un espace démocratique, il n'est pas facile d'imaginer que l'Argentine, l'un des pays les plus riches du monde jusqu'à la fin des années 40, ait connu plusieurs périodes d'obscurantisme dignes par moments de l'Inquisition, et cela en plein XXe siècle. Cela donne à réfléchir, une telle histoire me replonge soudain dans l'expérience recomposée par Paul Morand dans son Flagellant de Séville. Après avoir pris congé de mes hôtes, je me remémore les grandes lignes de l'article de Mario Vargas Llosa, publié dans Le Monde en 1995. Dans cet article, il rappelait le climat d'inquiétude et d'impuissance qui régnait en Argentine dans les années 1970 à cause de l'action insurrectionnelle des Montoneros et d'autres groupes de guérilleros. Il reprochait à ces éléments subversifs, en ne voulant pas conserver le système démocratique, même corrompu et inefficace, d'avoir provoqué la réaction des militaires. On imagine la suite. Aussi concluait-il que, je cite, « juger et sanctionner tous les responsables des cruautés inouïes perpétrées en Argentine, ce serait magnifique, mais pratiquement impossible ». Ces propos avaient soulevé de vives protestations, notamment celle de Juan José Saer, un écrivain argentin qui à son tour accusait l'écrivain péruvien de mauvaise foi, d'ignorance de l'histoire argentine et constaté que son point de vue coïncidait, comme par hasard, avec celui des militaires. Juan José Saer s'élevait encore contre l'assertion que la lutte armée est débutée sous un gouvernement démocratique. Pour lui, depuis le coup d'État de 1955 contre le gouvernement du général Perón jusqu'au 10 décembre 1983, date de l'arrivée au pouvoir du président Alfonsín, c'est-à-dire durant 28 ans, il n'y eut que 6 ans de gouvernement constitutionnel, considérant en outre que le gouvernement d'Isabel Perón n'avait rien de démocratique. Force est de constater que les points de vue diffèrent sur cette terrible période de l'histoire de l'Argentine. Je m'étonne au passage que Juan José Saer n'ait pas trouvé dictatorial le gouvernement du général Perón. Mais je me dois de ne pas prendre parti, n'étant pas un spécialiste de l'histoire politique argentine. Le soleil hivernal brille toujours sur Buenos Aires, l'apaisé. Et je me demande, non sans naïveté, si un jour il sera possible d'éviter la montée cyclique des divers extrémismes, je me prends à rêver d'une terre des hommes défendus avec tant d'énergie et de sensibilité par Antoine de Saint-Exupéry, héros légendaires de l'aréopostale qui cherchait à resserrer les liens entre les habitants de cette planète. Soyez assurés que cette aventure des ailes françaises en Amérique du Sud, je vous la présenterai un jour dans une autre émission.